Posons-nous les bonnes questions pour accélérer la transition écologique des collectivités. Avec Territoire et Sobriété, le podcast de l'ADEME et du ministère de la Transition écologique, partons pour un tour de France d'initiatives locales en faveur de la sobriété matérielle. Retrouvez les épisodes sur www.epargnonsresources.gouv.fr/collectivité.
Vous écoutez
RMC.
RMC, le face-à-face.
Avec Alexandra Schwartz-Brod de Libération, bonjour.
Bonjour.
Emmanuel Le Chypre, BFM TV, BFM Business, bonjour,
bonjour
Emmanuel.
À tous.
La dernière édition du classement de Shanghai, le classement des universités, a été dévoilée hier. Harvard, toujours numéro 1. La première université française est à la 37e place. Trois établissements français dans le top 100. Au-delà des critiques récurrentes qui sont faites à ce classement, les universités françaises sont-elles médiocres? Alexandra.
Il faut bien voir ce que c'est ce classement de Shanghai quand même. Hein. Il ne juge pas de la qualité brute d'un établissement. Il juge un établissement en fonction du nombre de prix Nobel, de médailles Fields qu'il a donné, du nombre de publications dans des revues scientifiques comme Nature. Donc c'est très particulier. Et là, ce qui fait le poids souvent, c'est le budget, c'est la force de frappe en termes de recherche. Et là, pour le coup, il est vrai que les universités françaises sont très très à la traîne par rapport aux universités anglo-saxonnes dans ce domaine.
Emmanuel.
Oui, je suis pas tout à fait d'accord. C'est toujours facile de dire c'est la faute au thermomètre. Effectivement, ce classement, il est pas parfait. Il a des défauts. Par exemple, il sous-évalue les sciences humaines. Hein. On est beaucoup sur les sciences dures. Mais il y a d'autres classements qui existent et qui disent à peu près la même chose quand même. Hein. Vous avez le classement qui s'appelle le QS World University Ranking. Vous avez celui qui est fait par le Times et ils disent tous la même chose. C'est-à-dire que dans les 50 premiers, je crois que dans le dernier classement QS, vous n'avez même plus d'universités françaises parmi les 50 premières. Alors oui, il y a les critères, mais il y a aussi, si vous prenez la réputation, par exemple, les universités françaises dégringolent, à la fois si vous regardez la réputation auprès des employeurs et auprès aussi de la communauté scientifique. Donc nos universités, elles sont effectivement médiocres, voire plus que médiocres dans la compétition internationale.
Mais non.
Notamment par rapport aux anglo-saxonnes et en Europe, effectivement, alors au-delà de la France, d'ailleurs, il y a un vrai problème européen. Mais on a des universités qui sont médiocres.
Mais là, on revient toujours au nerf de la guerre, c'est les finances. Au début de l'année, dans l'IB, on avait fait une grande enquête sur les universités. Une chercheuse nous avait dit l'excellence, on sait faire, c'est juste qu'on a zéro thune. Et je trouve que ça résume bien le problème. Il y a vraiment zéro, il y a pas d'argent pour les universités. Donc, ils doivent se débrouiller avec des vacataires. Et c'est un vrai, vrai problème, parce que ça finit par poser, à un moment, un problème de qualité. Puis surtout, les étudiants fuient. C'est ça le problème. Ils fuient à l'étranger parce qu'en effet, il y a très peu de moyens.
Vous répondre qu'il y a aussi beaucoup d'étrangers qui viennent étudier en France, hein, cela dit. Ça existe.
C'est pas évident. Quand on regarde les chiffres sur les dépenses par étudiant, c'est pas si évident que ça que les Français sont pas bons. On est par exemple au-dessus de la moyenne de l'OCDE. Alors on est derrière les grands pays anglo-saxons.
En termes de moyens, vous voulez dire?
En termes de moyens, etc. Mmh. Le problème, il est pas que là. Le problème, il est que les élèves qui arrivent à l'université sont mauvais. D'abord parce qu'ils ont été formés par un des pires systèmes scolaires français. Regardez notre classement.
Dur,
non, mais le fameux classement de l'OCDE, le classement PISA qui mesure la qualité des élèves avant l'université. On est dans les derniers pays européens. Ces élèves en plus ne sont pas sélectionnés parce que à l'université,
il y a une sélection de facto quand même parce que les premières années, il y a beaucoup d'élèves qui s'en vont et donc à partir de la deuxième année, ça commence à devenir
beaucoup
plus sérieux.
Oui, mais il y a aussi les choix pédagogiques qui sont faits, c'est-à-dire que alors ça, c'est peut-être un des changements apportés par la réforme Blanquer. Un des grands handicaps des élèves français, c'est qu'on est les seuls à leur faire faire autant de matières, notamment au lycée, par rapport à beaucoup d'autres pays. Il y a beaucoup d'autres pays où l'enseignement est resserré sur un nombre beaucoup plus faible de matières et donc les élèves sont meilleurs. Donc ça joue aussi énormément. Bon, ils sont mal encadrés, c'est sûr. Et puis, effectivement, il y a quand même ce problème d'argent qui fait que globalement, non pas forcément par élève, mais globalement, les universités françaises dépensent peu. On est un pays qui a la particularité aussi de faire financer beaucoup ses études par l'État et peu par les gens. La réalité, c'est que quand les études ne vous coûtent pas grand-chose, eh ben, vous n'avez rien. Ça, c'est une règle de l'économie. Vous dépensez pas, vous n'avez rien.
Alors, il y a un mouvement qui est en train de s'initier quand même, qui est intéressant. On voit bien que ce classement de Shanghai récompense surtout les mastodontes, les grosses universités.
Et il y a un mouvement. Il y a des regroupements en cours.
Et ce qui est très intéressant, c'est que Paris Sud, qui est monté dans le classement, Paris Sud s'est regroupé, est devenu avec Paris sa clé. Et ça montre que en fait la clé, en tout cas si on veut être bien classé dans ce genre de classement, c'est en effet les regroupements.
C'est encouragé effectivement.
Absolument.
Pour cette raison.
La réalité, c'est que la France, elle est capable de former un petit nombre d'élèves extrêmement brillants et sans doute parmi les meilleurs du monde. Nos grandes écoles d'ingénieurs, etc., forment parmi les meilleurs du monde. Mais on n'est pas capable de bien former une masse, une quantité importante d'élèves. Et c'est ça qui pêche aujourd'hui, quand vous voyez la qualité même de la formation des salariés français. Ça se retrouve tout au long de la vie au travail. On a un problème de sous-qualification en France qui est assez handicapant.
Vous dites quand ça coûte pas assez, ça.
Ah bah les études.
Il faudrait qu'on ait des universités qui coûtent le prix des universités américaines.
Oui, il faudrait un système dans lequel effectivement vous en avez pour votre argent quand vous faites vos études. D'abord parce que ça vous responsabilise quand vous faites vos études, et bien évidemment tout ça passe par un système de bourse performant et efficace, parce que et bien évidemment il ne s'agit pas de faire des études qui ne favorisent que les plus riches. Je vous rappelle quand même que le fait que l'université soit gratuite en France, contrairement à ce qu'on pourrait croire, ça favorise les élèves des familles plutôt aisées que les élèves des familles modestes.
Merci Alexandra Schwarzbrod. À bientôt.
À bientôt.
Emmanuel Le Chypre, on vous retrouve à midi sur RMC pour Radio Brunet.